artistes, musiciens et musiciennes au Canada, on vous invite à faire rayonner votre musique. Inscrivez-vous dès maintenant à la 16e édition des Silidor de la musique du monde. Cette vitrine unique est votre chance de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Faites vite, vous avez jusqu'au 12 décembre pour envoyer votre candidature. Toutes les infos sur www.silidor.com.
Les métiers des arts et de la culture, il y en a une foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler, des avenirs hauts en couleur. De la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite cultureetmoi.ca. Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec.
Salut, c'est Paola, directrice de l'information à Choc, la web radio de l'UQAM. En ce moment, je recherche des reporters bénévoles. Donc, si t'es attiré par le journalisme de terrain, n'hésite pas, rejoins nos équipes. Et pas besoin d'avoir de l'expérience, on te forme gratuitement à la prise de son, au montage et à la réalisation de reportages. La seule chose à faire pour ça, c'est de remplir notre formulaire « Créer des reportages » sur le site choc.ca dans la section « S'impliquer ». À très vite!
Salut, ici Lisa Kepinski, vous écoutez Choc.ca.
Excellent après-midi à tous. Vous écoutez Dans les airs en compagnie de Raja, Anouk qui est nouvelle chroniqueuse en ce lundi, qui peut-être reviendra si elle le souhaite. Et Florence, toujours. Et Léonie qui est avec moi à la régie. Léonie, comment ça va?
Ça va super bien.
Excellent. Écoutez, aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire nos petites revues culturelles. Florence, est-ce que tu veux commencer? Ou Léonie?
Tu veux? Oui.
Oui, parfait. Donc, le jeudi dernier, je suis allée au lancement du magazine Le Culte. En fait, je suis moi-même dans Le Culte. Pour l'équipe audiovisuelle, c'était le 1er décembre dernier au Théâtre Fairmont. Si j'ai bien quelque chose à dire sur le théâtre, c'est que c'était une belle scène, c'était très grand, c'était parfait pour accueillir plein de personnes. Et il y avait une belle scène, ce qui était aussi parfait pour la projection de ce que je vais vous parler plus tard, qui a été en place pendant la soirée. À noter que pendant la soirée, il y avait une présence des anges pour assurer la sécurité des personnes. Donc, c'était des personnes qui restaient sobres. Puis, il y avait des numéros de téléphone qui étaient donnés en cas de problème. Si jamais il y avait des personnes qui en avaient besoin ou qu'il y avait quoi que ce soit qui se passait, ils pouvaient les appeler pour une sécurité.
Oui, c'est ça. Donc, tu dis que c'est le lancement du magazine Le Culte, c'est ça?
Oui, exactement.
Est-ce que tu pourrais, mettons, pour des personnes qui savent pas c'est quoi Le Culte, est-ce que tu pourrais l'expliquer un peu c'est quoi?
Oui, bien sûr. Dans le fond, c'est un magazine culturel de l'UQAM. Ça compte le blog, ça compte les rédactions qui sont plus des histoires écrites. C'est vraiment, ça compte plein de sous-formes. Il y a aussi les gens, par exemple, en expérience interactive, qu'eux, ils vont faire des animations. Pendant le party, je vais en parler plus tard, mais on fait aussi une expérience interactive pour les personnes à la soirée. Donc, il y a vraiment plein de sous-branches, mais en général, c'est un magazine culturel de l'UQAM, fait par des étudiants, pour les étudiants, mais pas juste pour les étudiants, pour tous les fans de culture.
Trop cool. Mais moi aussi, j'y ai été, fait que j'ai hâte d'entendre ta version de que tu fais partie de l'équipe, en fait.
Ben oui, puis j'ai hâte d'entendre ce que t'en as pensé. Oui. Puis aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, dans le fond, il y a une version de magazine par session. Chaque session a une, ben, chaque version a une thématique différente. Et cette année, c'était la thématique néon. Donc, on a décidé plutôt de faire une thématique plus, pas néon comme années 80 flash, mais comme néon, t'es dans un dépanneur, puis il y a les petits néons qui grésillent. C'était plus ça le néon qu'on s'est enligné. La soirée a commencé par la vidéo de lancement de l'équipe d'audiovisuel. Dans le fond, c'était la vidéo qui a été utilisée pour la promotion sur les réseaux sociaux de la soirée. Si jamais vous êtes curieux de la voir, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon collègue Samuel. Elle est excellente. Il est avec Marie-Joëlle. Ils sont deux magiciens de la caméra. Je capote, pour vrai, aller voir ça. C'est sur le Facebook et le Instagram du culte. Puis, les plans, un vrai, vrai, vrai bijou. Par la suite, la soirée a continué avec la lecture des textes des personnes en rédaction. C'était tout vraiment beau. Ils se sont tout accordés pour qu'ils lisent comme... Il y avait à peu près deux, trois phrases qui se faisaient lire par personne de la rédaction. Puis, il y a une vingtaine. Fait qu'ils venaient vraiment comme créer un lien entre chacun de leurs textes. Mais je trouvais ça vraiment beau. Il y avait des textes qui étaient poignants. C'était magnifique à voir. Par la suite, il y avait le confessionnal que fait par l'équipe d'expérience interactive que je l'ai parlé un peu plus tôt. Dans le fond, c'était une sorte de confessionnal, là, un peu comme dans Occupation double ou n'importe quelle émission de télé-réalité, où c'était sous forme de cabine avec des décorations de couleurs néon. C'était magnifique. On aurait l'impression qu'on était comme dans un autre monde. Puis, il y avait une caméra et un micro qui roulaient pendant toute la soirée. Il y avait des questions sur les murs où les personnes pouvaient rentrer dans la cabine et répondre aux questions. Puis, j'ai pas tant parlé aux personnes qui l'ont fait, mais ça avait l'air vraiment d'attirer le monde. Il y avait une grosse file pour rentrer dans le confessionnal. Donc, oui.
Ouais, mais c'est ça. Moi, je suis allée au confessionnal. Puis, j'ai eu la chance d'y aller avant qu'il y ait... une immense file, fait que c'était long de rentrer. Mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est que moi, par exemple, j'ai pas vu la caméra directement. Fait que t'entrais, puis t'étais comme, ben, où est-ce que je suis filmée, genre? Fait que ça crée un espèce de naturel parce que, tu sais, c'est pas, tu t'attends pas, tu te positionnes pas nécessairement devant la caméra. Puis après ça, il y avait comme des espèces de questions collées sur le mur. Tout ça dans un décor de toile, genre couleur néon. Il y avait des illustrations un peu partout. J'ai trouvé que ça faisait vraiment... je sais pas, on se croyait dans une autre sphère de la soirée. T'sais, c'est comme si ça créait une rupture entre le dance floor puis la scène, puis après ça, le confessionnal. Ouais.
Oui, ben, je me demandais si toi, parce que moi, je suis dans l'audiovisuel, je prenais des photos, puis j'étais comme rentrée dans le confessionnal, j'ai pris des photos, je suis partie, mais j'ai pas vraiment lu les questions. Est-ce que tu te souviens de quelques questions qu'il y avait?
Il y avait des questions, tu sais, comme comiques, un peu plus légères, puis il y en avait d'autres que c'était plus, tu sais, croustillant. Tu sais, par exemple, je me rappelle une question, c'était « Qu'est-ce que on dit jamais, mais que tu devrais entendre? » Ou, tu sais, t'avais avoir un nom de porn star, ce serait quoi? Tu sais, okay. Comme il y avait vraiment une espèce de ballon complet, là. Fait que c'était le fun, il y avait des questions variées, ouais.
Ouais, Raja, tu voulais dire quelque chose?
En fait, je voulais juste savoir, moi, je connais pas du tout, mais c'est quoi exactement le confessionnal? Le but derrière, c'est de répondre le plus naturel possible aux questions.
Ben, par exemple, un confessionnal, exemple, dans une série télé-réalité, c'est par exemple, il va avoir une activité, oui. Puis après, ils vont te mettre dans le confessionnal. Souvent, c'est tout le temps le même lieu. Puis ils vont te poser des questions. Ah, oh, tu pensais quoi de l'activité? Ah, oh, il s'est passé quoi? T'sais, ils font poser des questions pour en savoir plus sur l'expérience d'une personne, mais juste aussi savoir des informations sur une personne.
OK. Et donc, il y avait aussi des questions en relation avec l'événement. Comment ils l'ont trouvé?
Je sais pas.
Je pense que c'était plus personnalisé, tu sais. Okay. C'était pas par rapport nécessairement à l'événement, mais ça faisait plus partie de l'événement en soi. Mais oui, voilà, le confessionnal très réussi.
Oui, puis je sais pas c'est quand qu'il sort, par contre, le confessionnal, mais que ça sorte, je vais vous le dire à la radio, ça c'est sûr. Mais j'ai vraiment hâte qu'il sorte, justement. Ça a vraiment piqué ma curiosité. Ça doit être long à monter, par contre.
Ils vont se faire un fun à monter ça, là, à voir toutes les personnes qui viennent parler, puis... Tu dois avoir un sacré contenu quand même.
C'est clair. Par la suite, après la soirée avec les gens de rédaction qui ont lu leur texte, il y avait les gens au DJ de création sonore que eux, by the way, ils ont fait un EP. Si jamais vous êtes intéressés, il est disponible sur Spotify. Un EP avec thématique néon. C'est super expérimental. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est eux qui sont occupés du DJ tout le long de la soirée. Les gens avaient du fun. C'était vraiment beau à voir. Il y avait aussi des animations, encore une fois, créées par les gens d'expérience interactive qui étaient juste derrière les DJ. Puis, c'était super beau. Puis aussi, il y avait un magazine papier donné à toutes les personnes qui venaient à la soirée, qui est un beau magazine fait imprimer sur du beau papier. Malheureusement, si c'est pas à la soirée, je pense pas que vous pouvez en avoir version papier. Par contre, il est disponible en ligne pour tous ceux qui sont intéressés. Puis aussi, tous ceux qui ont manqué la soirée, il va y avoir une vidéo récapitulative qui va sortir bientôt. Vous allez pouvoir avoir une petite idée pour les prochaines fois. Il va y avoir des photos qui sortent bientôt. Puis l'an prochain, encore une fois, il va y avoir une autre version de la soirée. Donc, c'est ça. Fait que je vous invite, si jamais, à regarder un peu ça. C'est vraiment des belles soirées et des belles opportunités. Oui, Florence?
Oui, en espérant que ça vous donne le goût d'y aller, honnêtement, pour l'avoir vécu hors du comité, j'ai rarement... ça faisait longtemps que j'avais vécu une soirée aussi, tu sais, simple et musicalement incroyable. Si je pouvais faire une mention... au DJ de cette soirée, c'était vraiment le fun. Puis c'est aussi que c'était le Théâtre Fairmont, pour ceux qui sont jamais allés, t'as vraiment un bar à ta gauche quand tu rentres en longueur, puis t'as une espèce de petite marche avec une salle de danse un peu, puis comme toute feutrée un peu, ce qui fait que t'avais de l'espace pour danser, mais t'étais pas non plus hyper... pris, puis
genre, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui sont venus, mais l'espace était tellement grand que c'était pas, genre, désagréable, tout collé. Moi, j'aime pas ça, être collé à des gens que je connais pas nécessairement quand je suis dans des discothèques ou des trucs comme ça. Mais là, justement, avec la marche, ça faisait que, au pire des cas, si tu te sens trop collé, tu peux aller sur le côté, puis il y avait aussi les anges qui étaient là pour les gens qui se sentaient moins bien.
Ouais, non, l'ambiance était fun. Ouais.
Pour les personnes qui s'intéresse et qui voudrait assister l'an prochain, est-ce que il va falloir être invité ou est-ce
non, c'est ouvert à tous. Dans le fond, il va y avoir deux soirées qui se passent pour le culte. La première, la soirée de financement, qui est environ dans la mi-session. Puis après ça, il va y avoir la soirée justement de lancement, qui est plus vers la fin de session. Puis juste aller suivre la page Facebook, le Instagram du culte. Puis maintenant, ils ont un TikTok maintenant, fait que ça s'appelle Le Culte. Leur à commercial, puis toutes les informations surtout sont postées là. Si vous êtes intéressé à lire les articles, ils vont être aussi publiés sur le Facebook et le Instagram.
OK, d'accord. Merci.
Ça fait plaisir.
Mais écoutez, on va se laisser en musique avant de passer à la chronique de Florence. Vous écoutez Dans les airs. Restez avec nous.
Le garçon est mauvais. Vraiment. il va t'amener que des problèmes. Oui, abandonne, abandonne-moi ça. Pas bon,
il n'est pas bon pour toi.
Pas bon,
il n'est pas bon pour toi.
Pas bon,
il n'est pas bon pour toi.
Écoute, pas bon,
il n'est pas bon pour toi. J'ai vu, tout le quartier l'a vu. Hey, tout le quartier sait ça. C'est un bandit, bandit. Awara, 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 le meneke mania. Awara, 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 le meneke mania.
Dans les airs, c'est moi, Léonie, qui va animer le reste de l'émission. Donc, ça va être Florence qui va venir nous parler de son spectacle de danse, donc Fable. Veux-tu nous en parler un peu?
Oui, parfait. Ben, en fait, je peux venir. Mais comme je suis déjà là, je vais commencer à en parler. Oui, je suis allée voir le spectacle Fable de Virginie Brunel la semaine dernière, jeudi soir. C'est une merveilleuse surprise que j'ai eue. C'est une amie qui m'a offert dans la minute. Elle était comme « Ah, oh, mon Dieu, j'ai un billet qui s'est libéré. » Elle sait qu'on a fait de la danse ensemble. Donc, elle sait que je suis une grande fan de spectacles de danse. Ça faisait immensément longtemps que j'en avais vu un. Un spectacle de danse contemporaine. Puis en fait, c'est le diffuseur, c'est Danse Danse. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le fond un diffuseur qui propose une programmation d'œuvres originales et marquantes du répertoire contemporain à Montréal, comme le spectacle de Fab de Virginie Brunel. C'est un spectacle à saveur féministe, donc vraiment un chemin vers la libération de la femme qui était présentée sur scène. Attention, tout ce que je vais vous raconter, en fait, est très subjectif parce que quand on voit un spectacle de danse, y a pas, tu sais, les références qu'on a, c'est vraiment les émotions qu'on ressent, ce que les corps nous transmettent, ce qui fait que, ben, moi, j'ai vécu ça de cette façon, mais ça se peut que vous parliez à quelqu'un qui est allé voir Fab et qui fasse comme « Hey, il était tellement dans le champ, moi, j'ai vu ça différemment. » Mais oui, donc, le petit descriptif du pamphlet qu'il nous donnait, c'était le suivant. Le point de départ de Fable, présenté en première mondiale au Lugano Dance Project 2022 en Suisse, est la thématique de ce festival gravitant autour de Montevirata, célèbre colline qui fut le berceau de micro-sociétés utopiques depuis le début du 20e siècle. Cette communauté libérée hippie avant la lettre a éveillé chez la chorégraphe Virginie Brunel l'envie de se pencher sur le féminisme. Avec en toile de fond le chaos d'une époque sans dessus-dessous, Fable nous projette dans des espaces d'affabulation d'où émergent des personnages plus grands que nature. Un univers d'un grand pouvoir évocateur, proche de la danse-théâtre, en écho à un besoin criant d'utopie, d'espoir et d'humanité. Danse-théâtre, vraiment, je pense que c'est le mot juste. À certains moments, j'avais l'impression que les danseurs nous parlaient sur scène tellement ils avaient une présence autant physique qu'émotionnelle. Il y avait 7 mouvements que j'ai pu déceler. Puis ce spectacle-là, vraiment, c'était entre l'émerveillement et le glacement de sang. Je sais pas si ça peut se dire, là, tu sais, comme quand tu as des froids un peu dans le dos, là. Mais il y avait vraiment des moments où tu te sentais comme ça, puis d'autres où tu étais émerveillé de lumière, puis de comme très... plutôt qui tourne vers la chaleur. Donc ça jouait dans ces émotions-là. On commence, en fait, le premier mouvement avec... une bataille. On nous livre bataille sur scène. Il y a plein d'interprètes vêtus tous, hommes comme femmes, d'un veston, torse nu. Puis, ils se livrent un combat. Puis, ce qui était intéressant, c'est que sur scène, il y avait une personne tierce à la bataille qui se déplaçait avec un immense micro. Puis, il captait le son des différentes batailles. Et ce qui faisait que le son qu'on entendait, c'était un fond sourd avec justement les cris et les essoufflements du combat. Donc c'était assez comme, je dirais pas violent, mais c'était très scénique, très théâtral, ouais.
Je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que le micro était en marche ou il
oui.
était pas... OK.
Ouais, okay. C'est ça.
C'était vraiment comme une bulle dans le son, dans
oui,
le fond.
Oui, exact. Puis là, il se promenait avec c'était comme une longue perche, là, t'sais, un long, long, long micro. Puis, en fait, il suivait tous les combats qui se livraient. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, à la fois, des corps qui tombent, qui reviennent, des duels, c'était beaucoup des duels, et des sauts, c'était plein, plein, plein d'actions. Puis, peu à peu, l'homme qu'on voit comme accessoire qui tient le micro, ben prend de plus en plus d'espace, prend de plus en plus de tourments. Fait qu'on le voit dans sa gestuelle qui devient un peu plus tourmentée à travers sa danse, puis comment il tient le micro, puis comment il approche les gens. Donc, peu à peu, pas à pas, il se fait comme encercler par les gens, puis il devient un peu le centre de l'attention de ce qui se passe sur scène. Et peu à peu, il devient seul. Et on le voit, il est comme pris dans une espèce de tourment de cris, puis vraiment, c'est... Attention, il y avait vraiment des images chocs dans ce spectacle-là. Peu à peu, il se dénude complètement sur scène. Puis c'est comme s'il se débat contre quelque chose qui est plus fort que lui avec le micro, puis il monte sur un espèce de podium et après ça, c'est le moment qui m'a le plus marqué, c'est il n'y a plus personne d'autre sur scène, il y a lui qui vit cette émotion-là si forte et entre en scène ce que j'appellerais deux shippies parce que je les voyais vraiment comme deux shippies. C'était comme un corps, mais en fait, c'est deux corps nus moulés dans un vêtement noir. mais de la, mettons, de la tête jusqu'à la mi-poitrine à peu près, qui sont moulés ensemble, puis qui font juste marcher puis rire. Genre, mais d'un rire, là, tu sais, les rires de films d'horreur. Là. Comme, moi, je suis pas tant fan d'horreur dans la vie, fait que j'ai vraiment peur facilement. Mais ça, là, c'est... Puis après ça, ils lui prennent le micro et commencent à rire dans ce micro-là, fait que c'est très amplifié, puis il y a juste ça qui se passe, genre. Et ils sortent de leurs vêtements noirs un espèce d'ensemble brillant, comme une tunique, une longue robe brillante dorée qu'ils tendent à l'homme sur le podium. Puis ils ricanent, puis ils titubent, c'est le seul mot, quand ils...
Titubent.
Ouais, titubent, je pense, froidement, en gloussant, comme s'ils se racontaient des petits secrets. Puis incompréhensible, puis l'homme met le vêtement, puis ça, c'est la fin du premier mouvement, en fait. Et bon, là, je vous raconte ça. Moi, comment je l'ai perçu, après en avoir discuté avec les gens avec qui j'étais allée voir le spectacle, c'est un peu comme l'arrivée du paraître. L'arrivée de... Tu sais, tu pars d'un monde où il n'y avait pas justement ces conventions sociales du beau, de vouloir s'habiller pour plaire, tu sais. Et c'est, les shippies, je les voyais un peu comme les petits tourments que t'as dans ta tête pour pouvoir plaire, puis que là, t'es comme, ah, est-ce que je mets ce vêtement-là ou non? Fait que c'est comme si ça reflétait les complexes, les secrets, l'arrivée en société, en fait, de l'homme, l'arrivée ensemble dans un collectif. Fait que vraiment, c'est... OK, c'est choc. Ensuite de ça, on a un deuxième mouvement. Et ça, je l'ai vraiment défini comme la femme en société. C'est comme si là, on a un amalgame de corps, puis la femme naît à travers ça. Elle se fait porter au monde et elle se fait accompagner. On lui apprend à marcher. Fait que là, c'était une interprète qui, justement, se faisait comme bousculer par les gens qui l'accompagnaient, la faisaient marcher, lui montrait à sourire, la plaçait dans le décor, vraiment comme un peu comme une marionnette. Puis là, arrive la robe de mariage, arrive, tu sais, tout le mariage en société, fait que c'est comme un peu la ritournelle de la femme puis de cet emprisonnement-là, en fait. C'est très théâtral, justement, fait que on la suit à travers la scène de cette vie-là. Puis la robe de mariée, là, c'était une immense longue robe, magnifique, là, mais honnêtement, au niveau de l'effet du décor, c'est que souvent, ils l'utilisaient dans leurs mouvements pour faire flotter la traîne, puis à la fin, toutes les interprètes sont venues sous la traîne, mais c'est vraiment immense, là. Même si vous allez sur le site, vous allez voir cette image-là, parce que c'était, je pense, dans l'image la plus choc du spectacle, mais on voit l'immense traîne levée comme une espèce, c'est les parachutes aux primaires, je sais pas si vous avez cette référence-là,
Ouais, oui, je l'ai dans la tête, oui.
Oui, c'est ça, mais tu sais, les images immense parachute, là, pour ceux qui savent pas, c'est comme une toile très longue qu'on s'amusait à secouer quand on était, genre, au primaire. Puis après ça, on la levait, puis on allait se cacher en dessous. Ça faisait comme un immense champignon, genre,
ouais, genre
comme
un
ballon. Un
dôme,
oui.
Ouais.
Mais là, c'était la même chose. C'est comme si, là, ils ont fait le parachute, puis se sont toutes mis en dessous, puis là, ça faisait une immense bulle. Et avec les mouvements de la femme, on suivait ça, puis c'est comme si elle accouchait aussi. Là, ça devient vraiment comme... Tu sais, au début, c'est tout paisible. Elle vient au monde, elle apprend à marcher. Tout ça, c'est accompagné par un piano. Donc, il y a un pianiste sur scène qui vraiment dicte, puis un immense, je veux dire, applaudissement pour lui. C'était fou. Il arrivait tellement à suivre, puis à bien, comme, justement, mettre une ambiance sur scène. Mais là, ça devient hyper violent. Elle accouche, il y a comme l'horreur, comme de... C'est comme très dans le rouge, on l'entend crier, la souffrance et tout. Donc ça, c'est le deuxième mouvement. C'est vraiment mouvementé comme spectacle, je vous dirais. Mais ça vaut la peine d'aller voir, parce que c'est rare qu'on voit une pièce qui nous fait vivre autant de... T'sais, et ça que je trouve fou de la danse, en fait, c'est que tu comprends pas nécessairement tout ce que tu vois, mais tu ressens quelque chose. Puis le fait de pas comprendre, souvent, ça veut dire quelque chose aussi, tu sais. Puis tous ensemble, tu vis quelque chose, peut-être différent de ton voisin, mais je trouve ça incroyable, le travail de danseur et danseuse, oui.
As-tu déjà fait de la danse toi-même?
Oui, c'est oui. Ça. Ben,
est-ce que c'est grâce à ça que tu comme un peu comprends mieux l'univers ou tu penses que juste en général, ça aurait été pareil pour tout le monde?
Je pense que c'est sûr que, tu sais, je regarde les mouvements puis comme j'ai peut-être que ça aide à mon amour de la gestuelle puis du travail scénographique qui est fait parce que je sais comme voir à quel point c'est difficile ce qu'ils font puis que ces artistes-là sont incroyablement bons en technique, tu sais, c'est fou, là, même souvent dans la danse contemporaine aussi, c'est plus difficile à voir parce que souvent on pense que c'est juste que la personne a juste fait un mouvement de tête, mais en fait, c'est tout est réfléchi, puis souvent ils vont travailler ensemble dans la rythmique avec les respirations, fait qu'ils vont se synchroniser avec la respiration. C'est un immense travail, mais souvent c'est moins dans, tu sais, la technicalité du ballet. Mais reste que c'est une toute autre technique qui est aussi
complexe,
ouais, exact. Aussi complexe et exigeante. Donc, j'ai vraiment aimé ce travail-là, mais aussi le fait que c'était des corps androgynes. Donc, il n'y avait pas de genre, il n'y avait pas... souvent, on est habitué en danse à voir genre des corps très, très frêles, très homogènes en tant que tels, alors que là, il y avait vraiment une diversité corporelle. J'ai vraiment aimé ce souci-là, surtout que pour avoir vu des spectacles de Virginie Brunel avant, elle choisissait vraiment des femmes plus très, très comme minces, très... Mais alors que là, il y avait vraiment un souci de diversité, puis même dans les costumes, il n'y avait pas de genre, tu sais, c'est... Les hommes portaient des robes comme les femmes portaient, tu sais, c'était très... diversifié. Donc, c'est ça. En gros, le troisième mouvement, c'est ça. On voit un peu plus la sensualité de la femme. Une femme seule sur scène avec un long costume scintillant. Quatrième mouvement, jeu de lumière. On joue beaucoup avec les profils, les vagues dans les mains. Cinquième mouvement, mon préféré. Un immense corset. Moi, je l'ai vraiment vu comme le corset social de la femme. Bon, c'est beaucoup de mots. Je m'explique, c'était comme un costume noir avec multiples rubans et sangles qui étaient qui sortaient de ce corset-là et étaient tenus par d'autres interprètes. Fait qu'il y avait une femme au centre qui était comme attachée avec toutes un espèce de cœur derrière qui dictait ses mouvements. Un peu encore, on joue encore avec le pantin, là, tu sais. Fait que moi, je voyais vraiment ce corset-là comme les tentacules du pouvoir, de l'oppression sociétale. Encore là, c'est subjectif à ce que j'ai ressenti, mais, tu sais, elle se fait guider dans ses mouvements. Ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'à la fin, il y avait comme une vague contraire qui faisait qu'elle initiait le mouvement et que peu à peu, elle prenait contrôle et que c'était à partir de ses mouvements à elle puis de sa force à elle, que naissaient les mouvements de danse. Donc, comme s'il y avait une évolution un peu, tu sais, au début, elle est très comme dans l'oppression, dans elle se fait tirer de tout bord, tout côté par ces rubans-là, puis elle n'arrive pas à tenir bon, alors qu'à la fin, vraiment, je voyais comme une ressurgissance, puis une prise en contrôle. Sixième mouvement, les chippies reviennent. Ah, celle-là. Il faut à glacer le sang, là, vraiment. Ils reviennent, puis il y a comme un long rideau transparent qui descend. Et cette fois, ils sont habillés d'habits brillants en dessous, mais ils ont encore leur tunique noire. Et là, tiennent le micro, mais le tiennent vers le public. Fait qu'ils rient, mais ils veulent entendre comme si on faisait appel au public à ce moment-là. Fait qu'ils tendent le micro vers le public, puis ils repartent à rire, mais vraiment dans des échos à glacer le sang, là, tu sais. Fait que, on dirait que tu venais de vivre genre un peu la libération de la femme, puis là après ça les chippies reviennent puis te rappellent les complexes et tourments puis à quel point c'est pas fini cette libération là, tu sais. Mais j'ai trouvé ça très brillant dans le rythme et on finit avec un décor très le brillant revient. On retrouve sur scène des grands faisceaux dorés. Toutes les interprètes reviennent habillés, là, comme Céline à Las Vegas. Genre, ils sont, là... Non, mais sérieusement, c'était beau, là. Il y avait des tuniques de paillettes mauves, de toutes les couleurs, en fait. Mauves, dorées. Puis là, c'était vraiment un chaos organisé. Tu sais, ils dansaient ensemble dans des espèces de canons, mais c'est... Pour vrai, c'est ce moment-là de la pièce qui me fait j'en aurais pris, là, de cette chorégraphie-là, j'en aurais pris pendant des heures. C'est, leur mouvement était tellement bien réfléchi, tellement dans l'unisson, que tu ressentais plein de choses en même temps, puis toute la salle était captivée par rapport à ça. Vraiment un éclat d'avenir. On ressort avec du spectacle, avait vraiment l'impression qu'ils nous ont parlé, puis qu'un message s'est transmis à travers les corps. Ouais, beauté de la danse, vraiment.
Moi, j'ai une question. Est-ce que le ressenti, quand on ressort, c'est plus de l'espoir, c'est plus du réalisme?
Oui, ben, je pense, oui, c'est plus du réalisme. Je pense que c'est un peu la, tu sais, je veux dire, le féminisme, c'est, tu sais, à la fois, on ressentait de l'espoir, à la fois, on avait encore l'espèce de froideur dans le dos des chippies, puis de toutes les, des éléments plus violents qu'on a vus, tu sais.
Oui, je trouve que, de plus que je trouve, d'après ce que tu viens de nous décrire là, c'est une, elle a voulu faire un spectacle sur le féminisme et lier, d'aller avec le réalisme,
mm-hmm.
Avec la représentation de toutes les pressions sociétales que tu nous racontais là, et avec un peu d'espoir quand même.
Ouais.
Et le retour est à la réalité.
Et vraiment donc, notre vie en société.
Ouais, exactement. Il s'y prit avec beaucoup de réalisme, je trouve.
Ouais, vraiment. Puis il y avait vraiment une belle transmission. Puis, tu sais, honnêtement, si j'avais... Je finirais sur comme une phrase par rapport à ce spectacle-là. C'est vraiment que, comme des fables, un spectacle, chacun de ces mouvements ont raconté. Pour des femmes, ces corps ont parlé. C'est vraiment ça qui est ressorti dans ma tête.
OK.
Ouais.
Magnifique.
Merci. Oui, t'avais une question?
Bah, c'est pas vraiment une question, mais je sais pas si tu connais la chanteuse Pomme.
Oui, Pomme, ouais.
Mais elle a fait un clip, en gros, elle a une chanson de son dernier album qui s'appelle Nelly, où elle parle de Nelly Arcan qui était...
Nelly Arcan, oui.
Voilà.
Mm-hmm.
Et en gros, c'est un peu une lettre à l'artiste qu'elle aurait voulu connaître et tout. Et dans le clip, justement, c'est la même chose quand tu parles de la séquence avec le corset où on la voit vraiment, elle est dans les airs, elle est tirée dans tous les sens. Et je pense qu'en fait, ça représente un peu ce que tu disais par rapport à la pression. Ah. Tout est... enfin, c'est... Je ne sais pas si c'est fait exprès,
mm-hmm.
mais ça m'a fait vraiment penser aux mêmes images.
Ah, il y a peut-être une résonance, oui, mais entre les deux. Mais cette image-là est très, très forte.
Exactement, c'est une très, ouais. belle, c'est une très belle représentation de toutes les pressions, l'image du corset, là.
Mm-hmm. Ah ouais, il y a rien de je pense qu'il y a rien. Ouais, il y a rien de plus vrai que de le voir puis de le sentir dans les corps sur scène, c'est magnifique vraiment. Donc c'est ça pour la suite, je pense qu'on se laisse en musique puis on va revenir pour la chronique.
Oui. Alors, merci pour ton partage en tout cas.
Ouais, ça fait plaisir.
Parfait, donc on va laisser une petite pause pour la musique puis on se retrouve dans 3-4 minutes.
Peace, man.
est de retour pour la chronique de Anouk, sa première chronique. Donc, elle va nous parler du film She Said, présentement au cinéma. Donc, vas-y Anouk.
Oui, donc moi je vais vous parler du film She Said. C'est un film réalisé par Maria Schrader qui dure 128 minutes. Et c'est un film en fait qui est basé sur un livre qui a été écrit par... le scénario a été écrit par Rebecca Lenkiewicz, mais il est basé sur le livre le reportage d'investigation de Judith Cantor et Megan Towey, qui sont en gros les deux journalistes qui ont mené l'enquête sur Harvey Weinstein et qui ont écrit le premier article qui a fait renaître le mouvement MeToo en 2017. Donc c'est un film qui passe dans beaucoup de cinémas à Montréal encore actuellement. Et en gros, ça parle donc de l'histoire de ces deux journalistes qui travaillent au New York Times, qui ont de concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. Ça, c'est le petit résumé du coup du film, comment il est présenté, qui nous parle à l'origine du coup du mouvement MeToo et de leurs investigations qui ont brisé des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le monde de la culture. Donc ça, c'est le résumé que donne le cinéma. Et donc ce film, ça parle vraiment d'emprise et de pouvoir de Weinstein sur le milieu du cinéma et sur la difficulté du coup dans cette enquête de journalisme du pouvoir de la parole, du silence. Et en fait, on va vraiment suivre du coup les deux journalistes dans leur enquête. Et on voit toute l'importance des coups de fil téléphoniques, d'essayer de parler à ces femmes. Et en fait, l'enjeu, c'est d'avoir des témoignages, mais c'est surtout d'avoir des visages, en fait, et qu'elles acceptent de témoigner publiquement. Et c'est tout ce travail-là, en fait, sur lequel se base le film. C'est vraiment un film un peu journalistique sur comment se mène cette enquête-là. Et du coup, c'est quand même un film assez original, si on peut dire, ça reste un film d'enquête, mais on va avoir la caméra jongle entre l'enquête des journalistes sur le terrain et leur vie privée, où on va les voir avec leurs enfants, où Judy Cantor, c'est bien elle qui vient juste d'accoucher, où on parle du postpartum, on pose aussi des questions et on joue entre le privé et le public, on va suivre la caméra, où elles ont des appels la nuit. Enfin, elles sont tout le temps en train de faire l'un et l'autre en même temps. Et j'ai trouvé ça assez... je sais pas si c'est original, mais intéressant de montrer les deux versions et de... Enfin, peut-être faire le lien aussi entre le privé et le public et montrer que le privé est politique et tout ça, oui.
Est-ce que c'est disponible en ce moment dans toutes les salles de cinéma, sais-tu, ou c'est genre seulement dans de plus petites salles de cinéma?
Là, ça passe encore au Cinéplex du Quartier Latin et ça passe le soir, à 21h. Et après, je crois que ça passe dans d'autres cinémas à Montréal, ça, je sais plus les noms.
Et est-ce que c'est une fiction? C'est une fiction, ce n'est pas un documentaire, c'est bien ça?
En fait, c'est un film fictionnel avec des actrices et tout ça qui joue le rôle de vrais journalistes.
Qui est basé
en fait
sur des faits, oui, réels. Voilà. Et donc, ça a été l'histoire, oui, réelle de cette femme-là, journaliste, qui a été,
oui, voilà,
en postpartum,
ouais, c'est ça,
en même temps qu'elle faisait cette enquête.
Voilà, c'est ça.
Okay.
En fait, c'est en gros, elles ont fait cette enquête-là en 2017 qui a permis de déclencher de médiatiser tout ce scandale-là et qui a amené à la condamnation de Weinstein à 20 ans de prison. Et elles en ont écrit un livre après, en 2019.
Okay.
Pour raconter vraiment les dessous de l'enquête. Et c'est ce livre-là qui vient d'être adapté. Désolée, okay, c'était pas clair.
Non, c'était... Merci.
Oui, ça me fait penser... Est-ce que ça me fait penser à un film, justement, côté journaliste d'enquête, Spotlight? Est-ce que tu l'as déjà vu? Toi, oui? Ben oui.
Oui, mais j'allais en parler. Oui, oui, Spotlight,
c'est justement une enquête journaliste. C'est comme un film basé sur des faits réels de fiction. Ben, c'est un film fictionnel, mais basé sur des faits réels. Puis, ça montre vraiment toutes les étapes qu'ont fait les journalistes d'enquête dans les années 2000 pour, justement, exposer toutes les prêtres pédophiles, puis comment ils ont fait et tout. Puis ça me faisait un peu penser à ton film, mais version plus avec la vie personnelle, parce que dans le film, on n'avait pas vraiment vu la vie personnelle des journalistes, mais plus l'enquête. Donc, ça fait comme un entre-deux, je trouve.
mais c'est vraiment intéressant de voir justement les étapes qui mènent au résultat. Tu sais, MeToo, on entend parler, ça fait 5 ans, c'est ça?
Oui. Ouais.
Tu sais, c'est sorti partout dans les médias, mais qu'est-ce qui a mené à ce que ça sorte?
Puis c'est des étapes, tu sais. Oui, il y a un article, puis en un article, des fois, ça peut faire le tour du Québec en une heure, mais la journaliste, peut-être qu'elle a passé comme 6 mois de travail derrière son article à faire de la recherche, des appels, tout ce qui est autour du travail. Donc, oui, c'est fun de valoriser l'ampleur du travail que ça peut avoir.
Et je voudrais te demander, est-ce que derrière, en plus du fait du travail journalistique et de l'écriture de cet article-là, est-ce qu'il y avait tout un travail de mobilisation sociale pour pousser ces femmes-là à se mobiliser et à avoir une réaction comme les manifestations du MeToo, ou c'était juste le film était juste autour du fait qu'elle cherchait à récolter des informations, des témoignages à visage découvert pour pouvoir rendre l'événement public, rendre les faits publics?
Non, mais je pense qu'il y a quand même une dimension sociale, parce que c'est un film d'enquête, mais il y a beaucoup de plans sur les entretiens, enfin, sur les récits et tout ça. Et même, il y a des actrices, j'ai noté, c'est Ashley Judd, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui joue son propre rôle, en fait, et qui témoigne, enfin, on la voit en appel et tout ça, elle raconte son histoire à elle. Et je pense que le film aussi est aussi fait pour inciter les femmes à parler, en fait. Et enfin, même, il y a un passage intéressant où, en gros, c'est Judy Cantor a mené une première enquête, puis elle est en congé maternité. Et Megan Towie, elle va reprendre cette enquête-là et elle l'appelle. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu leur dis pour qu'elles acceptent de témoigner? Parce que personne ne veut me parler. Comment toi, tu as fait? Et elle lui dit, dis-leur qu'on ne pourra pas changer ce qui leur est arrivé, mais on peut lutter ensemble pour que ça n'arrive pas à d'autres personnes. Et je trouvais ça hyper beau. Et c'est, en fait, c'est un peu le message aussi du film où si une accepte de témoigner, en fait, toutes vont se rallier, et c'est ce qu'on voit à la fin. Parce que du coup, Ashley Judd accepte au dernier moment, juste avant que ce soit publié, de donner son nom. Et elle se met à pleurer au téléphone, parce que ça change tout. Et on voit, quand le film se termine sur la publication de l'article, qu'après ça, 82 femmes ont accusé publiquement Weinstein d'agression sexuelle et tout ça. Mmh. Et c'est vraiment hyper fort. Et je pense qu'il y a aussi cette volonté-là.
Ces dimensions de mobiliser plus que...
Plus que juste informer.
Ok, d'accord.
Puis justement, c'est beau l'ouverture que ça peut mener et l'unisson que ça peut mener, au sens où les femmes s'écoutent et se rallient ensemble. Et le travail journalistique, j'ai très hâte de voir le film, là, ça me donne envie. À quel point, tu sais, c'est des sujets super sensibles, c'est des victimes, tout comme dans Spotlight, c'était souvent des victimes qui avaient vécu des agressions sexuelles par des prêtres. C'est difficile. Tu sais, comment te positionner comme journaliste pour respecter le privé de la personne, l'intégrité de cette personne-là, mais vouloir aussi partager son histoire avec son consentement, tu sais,
c'est en fait comment se donner, le pouvoir de se dire que je vais faire en sorte que telle ou telle personne va sortir de son silence pour me raconter un événement qui est très personnel et très pas facile à vivre.
C'est vraiment tout l'enjeu du film, parce que quand elle parle après avec plusieurs victimes, tout ça, ça leur est tout arrivé quand elles avaient 20 ans. Enfin, il y en a 3 qu'elle va retrouver, parce qu'il y a après toute une histoire avec Miramax, c'est la société de production que gérait Weinstein, et c'est via ça qu'il rencontrait toutes les actrices et tout ça. Et donc elle va aller jusqu'en Cornouailles, jusqu'à Los Angeles, et je crois en Écosse, mais ça je suis pas sûre, pour rencontrer 3 femmes et essayer, voir si elles acceptent de témoigner, tout ça. Donc elle va vraiment chez elles, dans leur famille, et il y a vraiment ce... C'est hyper délicat, il y a des moments où on a peur que ça aille trop loin, et je trouve que c'est bien fait. Enfin, elles vont jamais trop loin dans l'intrusion, c'est vraiment bien dosé.
Et c'est vraiment du travail derrière. C'est pas facile de bien doser son intervention dans des sujets comme ça. Ok, ça donne envie de voir le film, quoi.
Bah c'est, ouais, c'est vraiment bien. Puis c'est même pas trop dans le pathos, ou c'est pas trop non plus violent, parce que par exemple, quand elle raconte, ça, je trouvais ça hyper intéressant aussi. Enfin, je veux pas tout raconter, mais quand elle parle de leurs agressions, on a une voix off où du coup il y a l'actrice qui parle et le plan des chambres d'hôtel où en fait on avance dans la chambre et on voit les lieux où ça s'est passé, mais on voit rien d'autre en fait, on a juste la voix et ça. Et enfin, ça met des frissons. Enfin, c'est vraiment hyper fort, mais c'est pas non plus trop trigger ou trop pas dans le pathos. Enfin, c'est vraiment un bon juste milieu. Enfin, c'est vraiment intéressant.
Okay. Parfait. Mais merci. C'était super intéressant. Ça m'a vraiment donné envie d'aller voir le film. Pour vrai, je vais aller regarder ça s'il n'y a pas un trou dans mon horaire. Puis, on va aller tout de suite avec la chronique d'actualité culturelle de Raja. Donc,
Oui.
parle-nous de ça, Raja.
Oui, bonjour. Alors, comme toutes les semaines, malheureusement, la semaine dernière, j'ai pas pu le faire, mais c'est un récap des activités culturelles proposées par l'UQAM et qui sont généralement des activités gratuites et accessibles à tous, que vous soyez toutes et à tous, que vous soyez étudiantes ou pas. Donc, le programme de cette semaine est assez chargé. On a un événement et des fois même plus de trois événements pour la même journée. J'ai essayé d'avoir les événements qui seraient plus ou moins intéressants à voir. Alors, on a pour le 5 décembre, aujourd'hui, une conférence et jam, le Jazz Manouche, hier, aujourd'hui et demain. Christine Tassin, l'une des rares femmes solistes de guitare jazz et jazz manouche, également chanteuse, compositrice, autrice, réalisatrice et productrice, accompagnée de Martine Gouman, qui est au violon, seront les invités d'honneur dans le cadre du cours Histoire du jazz donné par l'UQAM, à l'UQAM. Cet événement se déroulera en trois parties. On a une conférence, un spectacle et un jam. Et les personnes, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde est invité à apporter son instrument de musique pour participer à cette jam session. Pour le mardi 6 décembre, il y a la pièce Les Brigands, qui est une pièce qui sera exposée à l'UQAM. Alors, pour vous donner un peu le synopsis, c'est à la suite de reniement de son père orchestré par France, son frère jumeau, Karl entame une vie de brigand. Trouvant asile dans les forêts de Bohême, il mène une bande formée avec ses camarades de classe. Or, pendant l'absence du jumeau prodige au château familial, France tente de s'emparer du pouvoir paternel et de conquérir Armalia, la fiancée de Karl. Donc, c'est une histoire, c'est une pièce autour de la jalousie, la tyrannie, la révolte et le sang n'épargne personne. Donc, cette pièce a été rarement montrée au Québec. Elle a fait l'objet ici d'un travail colossal d'adaptation. Et le metteur en scène a souhaité non pas en donner à voir une représentation historique, mais plutôt rendre hommage à Schiller et au message qui traverse le texte. Le 7 décembre, il y a une exposition. Je voudrais mentionner qu'il y a trois expositions dont j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes et elles sont toujours là. Et la nouveauté, c'est une nouvelle exposition de l'architecture en production visée de la préfabrication. Alors, le centre de design de l'UQAM présente une visée de la préfabrication, un regard historique et analytique sur ce que certains ont appelé l'une des plus anciennes nouvelles idées en architecture, largement influencée par la numérisation avancée. Et également, le 8 décembre, il y a Ciné Sociaux. Alors, j'en avais parlé ça aussi. Ciné Sociaux, c'est des projections de films autour de thématiques sociales, suivies de discussions avec la réalisateur ou les spectateurs, présentées par le département de sociologie de l'UQAM. Alors, généralement, c'est des films autour de phénomènes sociaux qui sont discutés par des professeurs qui sont spécialistes dans la matière et que tout le monde pourrait. Il y a une projection du film là. Le 8 décembre, c'est un nouveau pays né des barricades. C'est un film de 2021, suivi d'une discussion avec Leila Sélis, qui est une professeure du département. Enfin, Tout déballé, le 8 décembre également, qui est un documentaire sur les problèmes des emballages. L'UQAM avait fait un grand lancement le jour où ils avaient sorti ce documentaire-là. Et donc, ce documentaire-là sera rediffusé encore le 8 décembre. Alors, c'est un des documentaires qui est autour des emballages. Alors, comme vous savez peut-être sûrement, c'est un vrai fléau pour l'environnement. Chaque année, plus de 4 millions de tonnes de plastique sont jetées au Canada. C'est environ 125 kilos par personne. Les emballages comptent pour la moitié de ces déchets-là. Alors qu'une grande proportion des emballages que l'on produit n'est pas recyclée, la réduction à la source s'impose comme incontournable. Cette projection-là nous plonge dans les coulisses des emballages. La projection de ce film-là, qui aura lieu, je le rappelle, le 8 décembre, sera suivie par une discussion avec Sylvain Allard, co-réalisateur et professeur à l'école de design de l'UQAM, ainsi que Geneviève Dion, directrice éco-conception et économie circulaire de Éco-entreprise. Et donc voilà, pour le 9 décembre, à savoir vendredi, il y a le concert de piano classique qui est ouvert à tout le monde, qui est le concert de fin de session de la classe de piano classique de l'UQAM. Donc, je rappelle que ces événements sont ouverts à tout le monde et que la majorité de ces événements-là sont gratuits. Il y a énormément de projections. Et pour plus de détails, si jamais vous avez raté telle ou telle information, vous pouvez tout retrouver sur événements UQAM avec les dates et tout ça. Et donc, voilà, merci.
Merci, c'était super intéressant. Puis, c'est ça, ceux qui ne sont pas gratuits, à mon souvenir, il y a des prix étudiants.
Oui, exactement. Ça aussi. Et ce sont des tarifs assez abordables pour les étudiants. Et c'est très intéressant.
Parfait, merci. Donc, c'est ce qui prend fin à l'émission. On va partir sur une petite musique. Puis, bonne journée, à la semaine prochaine.
Merci, merci les filles.
Merci.
Merci.
Contemple le tremblant, l'oreiller. Seulement quelques gouttes, pas de mer à boire. Le spectre, le zombie qui nous arrive. Ça commence à être lent, lent, longtemps. Qu'il faut qu'on opère, qu'on s'engueule nos tripes. Y'a de la levure qui veut réclamer son plein. Soit le somnifère, soit la vitamine. Le poison n'est pas ruisselé en vain. Kourou guet-apens à toutes les heures tapantes. Parti sur une pétarade, mes yeux en cascatelle. Sois mon détaillant dans l'ombre séroquelle. Souffle des bulles d'ouragan dans les nuits affamantes. Le fantasme accablant de Maccabée exquis. Dénudé de son prestige presqu'île. Un soir accaparant rescapé de l'exil. Du carburant imbibé plein le textile. Convertis la main qui porte l'épée. Ton front est sein de fleurs en glorie. Tes pensées prennent en vol en flanc de parapet. Comme s'efface tranquillement souci de son périlleux. Les confettis l'extase pour le coryphée. Dans ce cadre du île vécures heureux. Venu dans ce monde tout ébouriffé. Nos cheveux devenus longs, longs comme le temps.